Bonjour, vous écoutez la voix du HR Spirit, le podcast Made by First Group. Je suis Céline Cussac, votre hôte, et j'ai le plaisir de recevoir au micro de ce podcast des professionnels de la fonction RH qui osent bousculer les lignes. À chaque épisode, découvrez comment ces femmes et ces hommes bâtissent leur vision d'une entreprise plus humaine, incarnent avec authenticité une fonction RH transformatrice et tentent de réenchanter le monde de l'entreprise. Un rendez-vous conversationnel qui se veut optimiste et décomplexé avec des passionnés du développement humain et du futur du travail. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du HR Spirit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Juliette Coallier, Chief Talent Officer chez Havas. Ensemble, nous allons parler de la place du collectif RH dans l'entreprise, de son rapport à l'IA et de sa nécessité de rester proche des métiers. Très bonne écoute. Bonjour Juliette.
Bonjour Céline.
Juliette, je suis ravie de t'accueillir au micro de La Voix du HR Spirit. Nous nous sommes rencontrés en 2010. Tu étais responsable développement RH chez Canal+ à l'époque, de mémoire. Et nos chemins se sont croisés plusieurs fois, mais sans collaboration directe. On s'est toujours dit qu'on aimerait faire quelque chose ensemble, mais l'occasion ne s'est jamais vraiment présentée. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on coche la case aujourd'hui avec cette interview ?
On commence à cocher la case. On ira plus loin.
Un début. Alors, si je reprends ton parcours, tu as fait plusieurs métiers, chef de projet, à directrice learning et développement RH, en passant par le marketing. Deux belles boîtes à ton actif, Canal+ et Havas. Aujourd'hui, tu es Chief Talent Officer chez Havas, l'un des plus grands groupes de communication au monde, avec 22 000 collaborateurs de mémoire dans plus de 100 pays. Alors, de mon point de vue, j'ai envie de faire un portrait un peu plus personnel. Je suis tentée de dire que tu fais partie des actrices RH profondément curieuses, qui aiment apprendre, qui n'ont pas peur d'aller sur des sujets parfois complexes. Tu es une RH de proximité, très accessible, de celle qui déjeune à la cantine et qui cause dans les ascenseurs avec les salariés, de celles qui aiment créer du lien avec un vrai sens de la convivialité. Juliette, bienvenue dans ce podcast.
Merci.
Je te propose de démarrer avec une toute première question. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on revienne sur ton choix d'orientation professionnelle, en tout cas pour la fonction RH ? Nous sommes en 2012, tu as 4 ans de marketing et 4 ans de chefferie de projet chez Canal+, et tu fais un constat pas très glorieux, et tu décides de le partager avec ta DRH. Ce constat, il est décisif. Le fait d'en parler avec ta DRH aussi, est-ce que tu peux nous dévoiler les coulisses de cette orientation ?
Oui, en fait, c'est assez drôle. Je crois que c'est la première fois que j'ai un rendez-vous RH, puisque j'avais été recrutée chez Canal sans rencontrer un seul RH. Et en fait, on a plusieurs réorganisations avec différents cabinets de conseil. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il faut que je réexplique mon métier. À l'époque, je suis directrice de la gestion de projet du groupe. Et en fait, j'en ai un peu marre de devoir justifier pourquoi mon poste existe et à quoi ça sert. Et puis, je suis aussi à un moment où il va être temps de changer. Et donc, je provoque un rendez-vous avec ma DRH de l'époque. Et je lui dis, écoute, j'ai réfléchi à 3 postes qui pourraient me convenir. Le premier est d'étendre le projet à la qualité, mais vous avez prévu de faire autre chose. C'est OK. Le deuxième, c'est de revenir au marketing, parce que j'avais dirigé le marketing des équipements et services juste avant, et de prendre une ligne de produits Canal. À l'époque, on avançait sur la SVOD. J'avais dit, mais je le mettrai ailleurs dans l'organisation. Je lui dis, et puis ton job, parce que finalement, si on avait dans les RH des gens qui viennent du métier, est-ce qu'on ne ferait pas les choses différemment ? Elle a été très smart, elle l'a pas du tout mal pris. Elle en a parlé à la patronne du DRH de l'époque, qui m'appelle le lendemain ou le surlendemain, en me disant « Ah, mais tu veux faire des RH, c'est génial. Je pensais créer un poste de directrice de la formation, est-ce que ça t'intéresse ?» Et alors là, gros blanc, mais à quoi ça peut bien servir un directeur de la formation dans une boîte ? Parce que comme tout salarié, j'avais une vision très... lointaine et peut-être inconsistante de finalement ce que le développement RH peut faire pour nous. Mmh. Et souvent, on oublie ce dont on a déjà bénéficié. Donc, je me suis beaucoup questionnée en me disant, mais est-ce que je pourrais revenir au business après ou pas ? On m'a dit que non. Je me suis dit, tant pis, allons-y, on va voir.
Grand saut.
Voilà. Et effectivement, grand saut parce que j'avais pas mesuré totalement ce que ça allait changer. Mais finalement, on y reviendra peut-être après. Il y a plein de similitudes en termes de métier.
Mais justement, quelles ressources tu as utilisées de tes deux jobs précédents, si on prend le marketing et la direction de projet, Qu'est-ce que tu utilises, qu'est-ce que tu as utilisé tout au long de ton parcours RH ?
En fait, ma conviction, c'est que tous les sujets qu'on traite partent tous de la même chose. C'est-à-dire qu'on a une problématique qu'on doit cerner, on a une population qu'on doit embarquer ou adresser, et on doit mettre en place quelque chose et communiquer sur ce qu'on met en place. Finalement, c'est un peu tous les éléments à la fois de la gestion de projet et du marketing. Donc finalement, peut-être ce qui a fait le plus la différence, c'est d'avoir une approche plus... segmenter des populations. Maintenant, ça semble évident, mais effectivement,
ça n'était on peut pas voilà, ça à l'époque,
ouais. On peut pas proposer la même chose à tout le monde, on peut pas parler de la même manière à tout le monde. Donc la segmente, enfin utiliser le marketing pour segmenter la population, donner un impact plus fort à la com, qui était aussi pour moi à la fois parce que ça me fait marrer et puis je trouve que c'est un vrai impact. Donc j'ai assez vite créé un poste de alors chez Havas, il s'appelle directeur artistique, mais en gros c'était de dire comment est-ce qu'on raconte ce qu'on fait. Parce qu'en fait c'est pas tout de faire les choses, il faut dire ce qu'on va faire, faire ce qu'on a dit, puis re-raconter ce qu'on a fait, parce que le salarié oublie.
Oui. Rappeler, toujours rappeler, et storyteller, c'est-à-dire pour donner envie mais quand même pour séduire et attirer.
Juste sur ce point-là, c'était quand j'ai fait mon pot de départ de chez Canal, c'est le discours de mon équipe était bon, ils sont un petit peu moqués de moi et c'était de bonne guerre, mais c'était c'est pénible quand on va la voir, elle nous dit mais raconte-moi une histoire. Bah oui, en fait, c'est-à-dire que si on n'est pas capable de dire ce qu'on va faire et qu'on parle de la formation en 3 jours pour telle cible, on n'est pas vraiment en train d'embarquer les gens.
Oui, mais là, on est au cœur du marketing, marketing RH. Avec le recul, tu dirais que la RH a quelle place dans l'entreprise ?
Alors, moi, je dirais qu'elle a la place qu'elle choisit d'avoir. Sachant que le contexte va jouer, c'est-à-dire que si on est une boîte en restructuration ou si on est une boîte en développement, on n'a pas exactement les mêmes problématiques. Ce qui est assez drôle, c'est que si on prend l'exemple de la période de Covid, mais en y passant vraiment 2 secondes, c'est que tout d'un coup, on est devenu hyper central sur tous les sujets, comme si on savait tout, alors que franchement, on ne savait rien. Moi, j'ai trouvé ça hyper excitant parce qu'en fait, chaque jour était nouveau et pour le coup, on changeait des expertises habituelles. Mais en revanche, faut pas oublier qu'on doit prendre cette place-là. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on nous la donne au moment du Covid qu'on la garde après. Donc la façon dont on l'incarne, dont on génère des conversations, en fait, tout le sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à générer des conversations. Et ces conversations sont autant d'opportunités d'incarner la fonction, d'avoir un impact sur l'organisation, de déceler des signaux faibles. Et puis de continuer à apprendre et à s'amuser, parce que sinon on s'ennuie quand même.
Et tu penses que suite au Covid, en tout cas crise, une fois qu'on est sorti quelque part de la crise, les fonctions RH sont sorties aussi de cette position centrale ?
Elles sont pas toutes sorties de la même manière, mais il y a eu effectivement une forme de retour à la normale où très vite on nous a demandé de mettre en place des procédures diverses et variées. Le rôle des RH, c'est pas juste de mettre en place des procédures. Et justement, je pense que ça a permis à certains de se révéler dans un rôle nouveau. Mais il faut jouer un peu d'écoute pour continuer à occuper ce rôle-là. Et puis pour d'autres, c'était plus rassurant de revenir dans un rôle très traditionnel de gestion du personnel. Et donc, faut arriver à trouver le bon équilibre. Ce qui est certain, c'est que la fonction RH aujourd'hui, elle peut pas faire que de la gestion du personnel.
Et alors, est-ce qu'il y a différents profils ? Là, on a parlé de la place de la RH qui est prise ou qui est donnée. Quel regard tu portes aujourd'hui sur tes collègues, ton entreprise, mais peut-être aussi d'autres homologues, maintenant que tu es du côté de la RH ?
Alors, maintenant que je suis du côté de la RH, ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, il y a autant de profils de DRH finalement que de sociétés quasiment. Et que ce qui fait le profil du DRH, ce n'est pas sa société, c'est son envie, c'est son appétence à comprendre le business. Donc en gros, tu vas avoir effectivement les DRH qui sont très traditionnels, je ne sais pas, appelons-le comme ça, donc qui ont plutôt une expertise technique et qui sont peut-être depuis très longtemps dans les mêmes environnements. Et puis tu as des DRH qui naturellement ont une appétence métier hyper forte et qui en fait vont rajouter cette coloration-là métier. Métier de l'entité dans laquelle ils sont, c'est-à-dire que les DRH que j'ai rencontrées chez Canal ou celles que je vois chez Vivendi aujourd'hui, certaines sont vraiment passionnés, enfin la plupart sont passionnés par l'activité de leur entreprise. Oui. Et en fait, quand on absorbe cette activité de l'entreprise, on apporte des choses différentes. Après, je trouve qu'en France, on est quand même parfois un peu conservateur sur certains métiers RH. Quand j'avais cherché à changer de boîte entre Canal et Havas, on m'a souvent dit « Ah oui, mais vous n'êtes pas une vraie DRH ». Je dis « Mais ça veut dire quoi être une vraie DRH ?»« Ah, mais vous n'avez pas géré de plans sociaux ». Oui, c'est vrai. Après, c'est un projet pas comme un autre, parce que les enjeux sont beaucoup plus importants. Mais, et puis, j'espère surtout, c'est que ce n'est pas le seul job des DRH. Mmh. Et dans un contexte de transformation des métiers, des attentes, du lien au travail, il faut que les RH elles puissent effectivement faire autre chose que juste faire l'entrée et la sortie. C'est-à-dire que tout ce qui se passe au milieu est hyper important et au service du business, des salariés, des leaders. Et pour ça, effectivement, peut-être tu disais en intro, la curiosité, pour moi, c'est un des points les plus importants. Il faut s'essayer à des choses nouvelles.
Alors justement, curiosité, des choses nouvelles, je sais que tu as un sujet que tu aimes beaucoup, qui est l'IA, l'intelligence artificielle, un sujet sur lequel tous les RH ne sont pas forcément à l'aise, voire même des fois c'est un sujet qui est vraiment dans l'angle mort de la fonction RH. Comment tu les accompagnes, toi, au quotidien, dans ton entreprise, dans ton rôle de Chief Talent Officer ?
Alors, on a deux responsabilités en tant que RH sur l'IA. On a une responsabilité qui est de se questionner sur les impacts sur nos propres métiers. Comment est-ce qu'on en tire le plein potentiel pour changer d'approche, gagner du temps sur certaines choses, automatiser quand c'est possible. Et puis on a un deuxième rôle qui est celui d'accompagner les salariés. Mmh. Et c'est peut-être la révolution qui nous oblige à aborder les deux sujets de front. C'est-à-dire qu'on peut difficilement mettre en place un plan de formation autour de l'IA, par exemple, quand on ne s'est pas questionné sur son propre métier. Donc, dans les initiatives qu'on a mises en place, et je ne suis pas toute seule, on est deux, trois passionnés autour du sujet, il y a effectivement... la première chose, c'est rassurer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur. Et moi, je suis plutôt d'un naturel positif, et une opportunité, c'est toujours l'occasion de faire quelque chose de nouveau. Donc ça c'est un premier élément que je peux essayer de transmettre. Le deuxième, c'est d'organiser aussi des sessions. On a fait par exemple un workshop à la fin de l'été avec l'ensemble des équipes RH pour comprendre ce qu'était l'IA, ce que ça n'était pas, donc lever les peurs, on va dire. Et puis la deuxième partie, c'est les faire pratiquer. Ok, maintenant on va utiliser telle ou telle IA.
Dans leur propre job, c'est ça ?
Alors, dans leur propre job, mais aussi sur des jobs qu'ils n'imaginaient pas. Okay. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut être très prudent avec l'IA sur le partage des données confidentielles, par exemple. Mais si je prends des exemples des outils RH, on a des enquêtes d'engagement. Une enquête d'engagement, tu as des milliers de verbatim. Mmh. Franchement, ce n'est pas humain de se lire tous les verbatim pour se dire comment tu peux les utiliser. En revanche, neutraliser tout ce qui fait référence à ton entreprise, ça prend un peu de temps, et ensuite le mettre dans une IA en lui disant « Est-ce que tu peux me sortir les 5 points forts, les 5 points faibles ?» En fait, ça marche super bien. Et ça donne, et quand la DRH va partager ses résultats, par exemple sur ce type d'usage, de dire « J'ai utilisé l'intelligence artificielle pour le faire », ça change l'image de l'RH. Mmh. Donc il y a ce truc, c'est-à-dire que c'est pas un sujet tabou, on doit s'en emparer, mais on doit aussi dire qu'on s'en empare. Comme ça, on gagne aussi en crédibilité.
Et les premiers retours que tu as donc de tes collègues que tu accompagnes sur ce sujet, plutôt rassurants sur le fait qu'ils, une fois qu'ils sont encadrés, qu'ils sont peut-être accompagnés
Comme toujours et comme dans toutes les populations, tu as les early adopteurs qui ont besoin de personnes qui sont déjà. Tu as ceux qui, assez vite, quand tu leur as mis le pied à l'étrier, vont y aller, vont jouer avec. Peut-être de manière moins régulière que ce qu'on aurait pu imaginer. Et puis, il y en a d'autres qui, effectivement, sont pas encore, se sont pas complètement emparés du sujet, mais en tout cas, sont capables d'en parler.
Oui.
Et ça, déjà, c'est très bien. Et puis, tous les métiers ne vont pas aller avec la même vitesse sur ces sujets. Les équipes Learning Dev, c'est évident. C'est un outil formidable.
Oui, tout à fait.
Tu fais de l'admin-RH, c'est un tout petit peu plus compliqué pour voir comment concrètement tu vas pouvoir t'en servir tout de suite. Et encore que... Tu vois, on s'en est servi pour refaire des job posts en se disant comment est-ce qu'on pourrait être avoir un ton plus accessible, moins formel. Et en fait, l'IA n'est qu'un sparring partner à ce stade. Mmh. Et c'est très bien. Ça nous fait gagner un temps de folie. Donc ça, il faut s'en servir.
Alors, je sais que tu accompagnes aussi la fonction RH sur un autre volet qui te tient à cœur. Je disais que tu étais une RH de proximité. Tu as à cœur que la fonction RH incarne auprès des salariés. Comment tu les aides à être plus présents auprès des salariés? Je sais que tu as quelques initiatives, notamment autour de séminaires. Je veux bien que tu en parles.
En fait, j'ai répondu à une de mes frustrations en me disant « Est-ce que ça peut être utile aux autres ?» Ma frustration, c'était, on vient me voir en disant « Ah, t'as pas un presta à me recommander, je voudrais faire un séminaire. » Alors déjà, moi, je suis pas marchand de presta, hein, c'est pas mon job. Et donc, en fait, je me suis dit, et parce que je l'avais expérimenté chez Canal, j'ai vu mes collègues des RH chez Canal le faire beaucoup, en fait, le séminaire est l'occasion pour les RH de faire plein de choses. Donc, on peut soit intervenir en aide à poser la problématique que ce séminaire doit adresser, soit on peut aller plus loin, et ça c'est mon kiff absolu, c'est s'emparer de l'animation. Et en fait, quand on s'empare de l'animation, alors pas pour tous les sujets, pas à tous les moments, mais par exemple, je sais pas, là, j'ai récemment une équipe qui est venue me voir sur on a un sujet de comment est-ce que, après plusieurs changements de CEO, ben, on arrive à recréer du lien et puis à se projeter dans le nouveau modèle de l'agence. Ben là, c'est pertinent que la RH elle intervienne en conception et en facilitation. Mmh. Un, parce que ça permet de remettre en perspective tous les outils RH qu'on a à disposition. Donc on va reprendre notre enquête d'engagement en disant ben, est-ce qu'il y a des insights intéressants qui vont nourrir ce séminaire? On va pouvoir se poser la question de est-ce qu'il y a des dispositifs d'accompagnement qu'on va pouvoir activer a posteriori si on a détecté des choses pendant le séminaire. Et puis pendant le séminaire, on est plusieurs à être certifiés à différents outils. Alors il existe plein d'outils sur le marché. Moi, j'aime beaucoup le Predictive Index, mais il pourrait y en avoir d'autres, ou le Belbin ou autre. Et en fait, on se met cette fois en posture d'animation. Et en étant en posture d'animation, ce qu'on dit des RH, c'est que bah oui, on a plusieurs facettes. Et puis franchement, c'est drôle. Donc on va utiliser de l'impro théâtrale, des choses comme ça. On présente un outil, on utilise un outil qu'on va pouvoir installer dans la durée. Oui. Alors que si c'était en externe, c'est beaucoup plus compliqué de le faire. On va pouvoir créer une relation différente avec les salariés. Et du coup, ça génère des conversations. Alors, je n'aurais pas dû dire du coup, mais les conversations, c'est mon fonds de commerce. C'est-à-dire que si on ne génère pas de conversations, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc là, on génère des nouvelles conversations avec les salariés, avec tous les niveaux de salariés. Ça permet d'identifier aussi les signaux faibles qu'il peut y avoir dans une organisation. Est-ce que la relation passe? Est-ce que le collectif fonctionne? Et puis, ça permet d'affirmer assez vite que les initiatives qui sont proposées pendant le séminaire peuvent ou non être mises en œuvre.
Et j'imagine plus rapidement.
Et plus rapidement, parce qu'en fait, on a gagné toute cette phase de débrief, mais surtout, dans un environnement comme Havas, où en fait on a plusieurs agences avec des cultures différentes, ça permet aussi de dire « Ah ben tiens, vous avez pensé à ce truc-là, eh ben, il existe dans telle autre agence, le contact c'est telle personne, allez lui parler pour voir comment est-ce qu'on peut le faire. » Et donc ça positionne la RH en facilitateur, en acteur du changement, mais pas en sachant et en super-héros de « vous avez un problème, j'ai la solution ». Parfois on n'a pas la solution.
Là, c'est le discours incarné, ce dont on parlait tout à l'heure. T'as eu des retours, des ressentis exprimés par tes collègues RH justement quand ils sont mis dans ce rôle-là? Est-ce qu'ils aiment? Est-ce que ça
fait pas? Je l'impose jamais. Je fais plutôt appel à des volontaires pour co-animer avec moi, parce qu'il faut avoir une certaine aisance et puis une certaine confiance en soi pour le faire, parce que ça, on se met en risque en étant sur scène et en ayant animé un groupe de 80. Mais je commence doucement, c'est-à-dire que je peux commencer par leur proposer d'animer des ateliers avec moi, où on est une quinzaine. Puis une fois qu'ils ont animé un atelier, on peut aller vers autre chose. Donc tout le monde se prête pas au jeu, et c'est pas grave. Ce que je trouve intéressant, c'est que le RH de l'entité participe d'une manière ou d'une autre. Et en tout cas, je peux m'assurer qu'il est bien partie prenante du séminaire. Et parfois, on les oublie. Et c'est notre responsabilité de ne pas être oublié, en fait.
Bien sûr.
Ce qu'on disait, il faut prendre la place qu'on a envie d'avoir.
Alors, ça me fait penser à une question, l'expression « bouger les lignes ». Qu'est-ce que t'inspire, cette expression?
En fait, on a les lignes qu'on se met.
On a les lignes qu'on se met, ouais, et on a la place qu'on prend.
Exactement. Et puis bouger les lignes, c'est ça qui est drôle. Enfin, sinon, on s'ennuie. Quand je fais des entretiens de carrière avec des salariés, je leur dis « bon bah, si on se voit maintenant, c'est peut-être trop tard, en fait. Et donc, dès le onboarding, je leur dis, alors, le jour où vous avez l'impression que vous arrêtez d'apprendre, vous ne vous amusez plus, il est urgent qu'on se parle. Parce qu'en fait, on est déjà limite un peu tard. Enfin, tu l'as aussi pas mal fait dans le passé, mais on n'est jamais aussi bon que quand on pense qu'on est là où on devrait être et qu'on n'a pas conscience qu'on est en train de faire quelque chose. Enfin, pas conscience. On a toujours conscience, mais qu'on n'est pas dans l'effort. Et pas être dans l'effort, c'est garder cette espèce de flamme. Et parfois, pour alimenter la flamme, effectivement, il faut faire un petit pas de côté, il faut essayer des choses nouvelles. Faut accepter de prendre des risques, faut être dans des environnements bien qui sûr permettent de le faire, hein. C'est pas possible partout. Et puis on fait la stratégie des petits pas, ça marche toujours, hein.
Tu parles de flamme, quelle est l'activité toi qui représente le flow?
Ah, moi, l'animation de séminaire, c'est mon kiff absolu. C'est mon kiff absolu parce qu'à la fois ça me met dans un stress, parce que je pars du principe qu'à chaque fois c'est différent, donc je peux pas reproduire tel quel. Pour la petite histoire, j'avais commencé en animant une formation management en République démocratique du Congo. C'était la première fois que je mettais les pieds en Afrique. Et en fait, j'ai trouvé que c'était incroyable. Et à chaque fois que je suis retournée dans un pays africain différent, je me forçais à me dire, et ce qui est vrai, hein, c'est des cultures différentes, c'est un pays différent, c'est une problématique différente. Et en fait, c'est mon mantra quand je fais un séminaire. Donc je peux utiliser des outils identiques, mais je ne vais jamais les faire de la même manière. Et en fait, ce qui m'amuse, c'est le ping-pong avec celui qui est commanditaire du séminaire, de à quoi il veut arriver, comment il veut le faire, quel rôle il va jouer. Ouais. Et pas juste l'intro et la conclusion un peu corporate qui peut arriver.
On s'approche tout doucement vers la fin de cette interview. En deux, trois mots, qu'est-ce qui a été difficile ces 10 dernières années en tant qu'RH pour toi?
Le tout début. C'est-à-dire que je savais que c'était un changement de métier important, mais j'avais pas anticipé tout à fait le changement du regard des autres. C'est-à-dire que ça faisait 10 ans que j'étais chez Canal, donc je connaissais à peu près, et puis en ayant eu des rôles transverses, je connaissais beaucoup de gens. Et je me suis retrouvée à des moments où on m'a dit, mais en fait, est-ce que là je te parle en tant que toi ou en tant que RH? Ben, en fait, c'est la même personne. En revanche, effectivement, mon rôle RH peut faire qu'en fonction de ce que tu vas me dire, ma réponse va être différente, mais je reste la même personne. Donc ça a été un petit moment pas facile. Et puis pas facile parce que, comme je le disais, il faut prendre la place qu'on a envie de prendre. Au départ, quand tu crées un poste de directrice de la formation, personne ne vient te voir. C'est-à-dire que spontanément, tu n'as pas d'appel entrant. Donc je suis passée d'un moment où j'avais des tonnes d'appels entrants à, en fait, c'est moi qui dois aller voir les gens. Donc ça peut être une difficulté. L'autre difficulté, ou la prise de conscience, c'est que un DRH opérationnel et un rôle transverse comme le mien, plutôt orienté dev, en fait, on n'est pas sur la même ligne de temps. Moi, je suis plutôt dans une logique de projet, d'anticipation, de temps long, on pourrait dire, même s'il peut y avoir des coups de bourre comme tout le monde. Et le RH opérationnel, pour moi, il est plutôt sur une succession de temps courts. Et donc, ça peut générer de la frustration, donc je le dis toujours quand j'ai des nouvelles équipes. En fait, c'est pas parce qu'on l'a dit 10 fois que c'est en haut de la liste du RRH ou du DRH. Et c'est pas grave, il faut qu'on répète. Et donc oui, il faut le faire. On est dépendant d'eux parce qu'il faut trouver la bonne articulation sur qui parle aux salariés, à quel moment. On est un peu le back-office du back-office. Donc c'est pas joli quand on le dit comme ça. Donc en fait, comment est-ce que on crée ensemble un collectif RH où finalement, les frontières de qui manage qui s'en fiche un peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous le même objectif et en revanche, on a des outils différents pour y arriver. Et ça, c'est effectivement une des difficultés que j'ai aussi eues chez Havas, parce que je suis arrivée pour créer une direction qui n'existait pas. Ben, comment on trouve le bon positionnement? Comment est-ce qu'on aide les RH opérationnels sans faire à leur place? Comment est-ce que parfois on prend le lead et puis parfois on est un peu en dessous? Donc c'est un exercice qu'il faut faire et dans chaque société, ça va être différent. Ces postes de DRH, ils sont jamais positionnés pareil.
Mais ce que tu décris, c'est finalement le ciment entre tous ces acteurs RH, c'est une vision commune.
C'est une vision commune, c'est une envie de faire ensemble, c'est une énergie qui doit être partagée. Et puis souvent, les RH, personne ne s'en occupe. C'est-à-dire qu'on fait des choses pour tout le monde et on a peu de moments où on se retrouve, où on se développe, où on se questionne, où on se soutient. Et moi, je considère que ça fait aussi partie de mes missions transverses de proposer des choses pour les équipes RH. Et on a une opportunité en étant RH dans des grands groupes, c'est qu'on est nombreux.
Ouais.
Et donc, comme on est nombreux, on a cette force du collectif et on appartient, Havas appartient au groupe Vivendi et il y a une personne que j'adore, Christine Piel, qui a créé une communauté RH Vivendi avec justement un dispositif d'accompagnement pour les RH qui était très nouveau et qui, au-delà de se dire on fait du bien aux RH, en fait, on fait du bien à nos groupes. Parce que si les RH se connaissent,
bien sûr.
Quand on veut parler de mobilité, quand on doit parler d'optimiser des projets communs, en fait, tout de suite, c'est évident. Parce que, au final, ce qui fait le ciment de toutes les organisations, c'est les conversations. Et les conversations, on a besoin de les générer. Et pour ça, il faut se rencontrer.
Alors, on est à la veille de la fin d'année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024, pour toi et tes équipes?
Je vais changer de poste au 1er janvier.
Ok.
Puisque je vais rejoindre le groupe Vivendi. Donc, pour mes équipes Havas, on va leur souhaiter de continuer à s'éclater, à apprendre. On met en place une nouvelle orga. Je suis sûre que ça va être très, très chouette pour eux. Donc, j'ai un petit pincement au cœur de les quitter parce que j'ai eu la chance de tous les recruter. Et ça, c'est quand même vraiment un luxe.
Chance.
C'est vraiment chouette. Et puis, pour moi, que je continue à m'amuser et à apprendre des choses nouvelles. Il y aura un petit temps d'adaptation, c'est normal, parce que c'est une autre culture. Mais ça va être très chouette.
Bah oui. Alors, te connaissant, tu vas forcément vouloir remercier tes équipes. Alors, je te propose qu'on termine ce podcast en musique et que tu choisisses la musique qui te permet de dire merci à tes équipes. Avec quel son tu as envie?
Alors,
qu'on se dise au revoir.
La musique que j'ai choisie est une musique qui ne veut rien dire. Donc ne cherchez pas à comprendre le son. En fait, c'est un artiste italien qui a pris des sonorités anglo-saxonnes pour faire une chanson. Donc je vais vous laisser la découvrir. Et ce que j'adore dans cette, et je m'en sers d'ailleurs en séminaire, cette musique, moi, elle me donne une énergie de dingue. Et donc le message pour mes équipes Havas, c'est en fait, vous m'avez donné une énergie de dingue au cours des 6 dernières années. Et ça, c'est chouette. Merci.
Merci Juliette et écoute, très très belle année 2024. You don't know what you're doing, you're going to be doing. There's people that actually like to take me home.